française.
Latina.
La franco-latina.
Si queremos, podemos conversar con el pasado. Si queremos, podemos transformar este presente.
Contigo va a dar.
Marco por ti, Chile tiene que cambiar, porque la gente en todo Chile un gran paso contigo va a dar.
Marco por ti, Chile tiene que cambiar, porque la gente en todo Chile un gran paso contigo va a dar.
Vamos a seguir creciendo, vamos a vivir mejor. Sé bien que si estamos juntos, vamos a vivir mejor.
Sedón Pazmi, Jorge Arrate, Marco Enrique Sominami, Eduardo Frey y Sebastián Piñera, les quatre candidats nous venons d'écouter les jingles de campagne, que les Chiliens choisiront ce dimanche 13 décembre les successeurs de Michel Bachelet. Pour mieux comprendre les enjeux de l'élection, la Franco-Latina a organisé à la Maison de l'Amérique latine un débat avec la participation du directeur de l'Institut des hautes études d'Amérique latine, Georges Coufignal, du responsable de la rubrique Amérique latine de Libération, Gérard Thomas, et en direct du Chili, du professeur de relations internationales et président de l'Association d'anciens prisonniers politiques chiliens, Ricardo Parvex. Nous vous proposons ici quelques passages de ce débat qui ne pouvait commencer que par un tour de table autour de la très populaire Michel Bachelet.
Je crois que Michel Bachelet, qui a quand même très mal commencé son mandat, d'une part avec un problème de réforme des transports en commun qui avait été un plan qui avait été fait par son prédécesseur Lagos, qui avait fait venir ceux qui avaient résolu le plan de circulation de Bogota et qui avaient fait des merveilles à Bogota. Ils ont réussi à créer pendant au moins 2 ans, sinon 3, un chaos invraisemblable à Santiago. Et ça a très mal démarré. Deuxième point où ça a quand même très mal démarré aussi, c'est avec la réforme du système de l'éducation où Michel Bachelet s'est heurté à une révolte des lycéens et des étudiants extrêmement forte et violente dans la rue. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle a une telle popularité ? À mon avis, deux choses. L'une, qui est le point de départ, ce qui avait assuré son élection, elle apparaît comme en dehors des appareils partisans traditionnels. On s'identifie à une femme simple qui vit comme tout le monde, qui, dans un pays hyper catholique, avec une église qui est on ne peut plus conservatrice, qui dit « je vis seul, j'ai élevé mes 3 enfants, je suis séparé », et puis qui a été médecin, qui a fait son travail de médecin, qui, ayant eu son diplôme de médecine en Allemagne de l'Est, il a fallu qu'elle le refasse au Chili parce qu'il n'y avait pas... Bref, une femme normale qui n'apparaît pas, bien qu'elle ait été ministre de la Santé, ministre des Forces armées, qui n'apparaît pas comme une apparatchik partisane. Donc ce processus d'identification, me semble-t-il, est fort. Mais il y a un deuxième point tout à fait paradoxal. Je crois que la grande chance de Michel Bachelet, c'est la crise. C'est la crise dans la crise mondiale. dans la mesure où le Chili est un pays qui a eu une politique économique tout à fait atypique dans le monde entier. Premièrement, ce pays néolibéral cité en exemple comme le bon élève du consensus de Washington a inventé la taxe Tobin. Il la pratique depuis le milieu des années 90, à savoir que les capitaux flottants qui rentrent au Chili ne peuvent rentrer sans être taxés. Mais s'ils repartent avant 6 mois, ils sont taxés fortement. C'est-à-dire empêcher les allers-retours de capitaux spéculatifs pour faire que les capitaux qui rentrent soient des capitaux qui s'investissent. Ceci existe depuis très longtemps. Mais deuxièmement, et ça avait été fait sous l'époque Lagos, il y avait une loi qui disait qu'il fallait avoir un budget qui, de manière permanente, soit excédentaire de 1%. On n'est pas dans le déficit de Maastricht à 3%, excédentaire de 1%. Et avec Bachelet, ça a été ramené à 0,5. Mais là où a été l'intelligence des dirigeants économiques du Chili depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est que ces excédents budgétaires, et qui se sont accrus sous Bachelet parce que les prix du cuivre, en particulier avec la demande chinoise, ont explosé. Et le cuivre, c'était 40% du budget du Chili. Et le Chili n'a pas réinvesti massivement cet argent comme il aurait pu le faire dans une quantité il a eu l'intelligence de dire on n'investit sous diverses formes de politique publique que ce que la société est à même de pouvoir absorber, développer, etc. Et a mis l'argent de côté et là... placé. Le résultat, c'est que quand la crise vient et qu'il faut faire des plans de relance massifs, le Chili peut le faire, il a l'argent. Il n'a pas besoin d'emprunter, il n'a pas besoin de faire du déficit. Il le fait avec ses ressources propres. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles le Chili est en train de s'en sortir merveilleusement bien de la crise. Et c'est aussi cela l'une des raisons parce que Bachelet remonte dans les sondages depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis le début de la crise. Et ça, c'est le résultat de cette politique économique, à mon avis.
Effectivement, on peut mesurer ça dans la vie quotidienne. J'ai discuté avec des gens à propos des élections. Et beaucoup de gens qui m'ont exprimé le regret de ne pas pouvoir voter Bachelet parce qu'elle n'a pas le droit à se représenter. Dans cette situation, il y a un décalage énorme entre l'image de Bachelet, qui a 80% de popularité, et le 27-28% qu'on donne aux candidats à la concertation. Or, lorsque un président comme Michel Bachelet recueille 80% de popularité, ça veut dire qu'il y a des gens de droite, des gens qui votent à droite, qui sont des gens qui aiment l'administration Bachelet, la personnalité de Michel Bachelet. On pourrait dire qu'il dépasse, que sa personnalité, son image, dépasse le clivage gauche-droite ou le clivage de la candidature actuelle de l'Alliance à droite et de la concertation comme en continuité de l'œuvre de cette même présidente.
Gérard Thomas, quelle est ta perception de Michel Bachelet? Et j'aimerais te poser la question, on s'est connu à Santiago du Chili lorsque le premier gouvernement de la concertation s'installait. Comment tu vois justement Michel Bachelet comme
l'évolution ou l'aboutissement ou le changement peut-être de cette aventure qui a commencé dans les années 90.
D'abord, je suis d'accord avec ce qu'a dit Kofigal, c'est-à-dire que Bachelet, c'est un ensemble, c'est une femme, elle a eu des problèmes au début de son gouvernement, elle a réussi effectivement à gérer correctement la crise à la chilienne, c'est-à-dire par l'économie notamment, ce qui fait beaucoup plaisir à tout le monde au Chili. Et si j'ai une certitude en rentrant de Santiago, je suis rentré il y a deux jours, c'est que si elle était candidate, elle serait réélue au premier tour pratiquement. Ça, c'est la seule certitude qu'on peut avoir par rapport à elle. Et que tout le monde dit à Santiago, en 2014, le prochain candidat, elle est déjà élue, c'est Michelle Bachelet. Voilà. Cela dit, les petits bémols que je mettrais, c'est sur l'économie, justement. C'est un petit peu ce qui commence, j'ai l'impression, à lasser le Chilien de la rue. C'est cette référence systématique au bon élève, au Chili qui progresse, qui a un certain 2, 3, 6, 10% de croissance par an au début, maintenant qu'il y a 2,5% je crois prévu cette année, qui est quand même un schéma qui a été donné au pays par son ancien dictateur Pinochet et sur lequel aucun des gouvernements qui ont été élus ensuite, que ce soit Elwin, Lagos, Bachelet ou Frey, n'ont remis réellement en question. C'est-à-dire que les rails étaient tracés, on pouvait faire un petit peu de social par-ci, un petit peu de ceci par-là, mais l'important était le taux de croissance, les investissements dans le pays, l'inflation pas trop forte, la croissance importante et le développement des entreprises. Je crois que ce discours, qui a effectivement servi au Chili pour dominer la crise, encore que l'Amérique du Sud s'en est plutôt pas mal sorti ces deux dernières années au niveau de la crise, mieux en tous les cas que les pays d'Asie et que les pays d'Afrique et que l'Europe et que les États-Unis. Donc grosso modo, l'Amérique du Sud s'est plutôt bien sorti du phénomène crise qu'on a connu depuis deux jours. Je crois que ce discours lasse. Le discours, l'économie chilienne va bien, le Chili est un bon élève, le Chili investit, le Chili progresse, le Chili ceci, lasse, et notamment les classes les plus jeunes de la société, les classes d'âge les plus jeunes de la société, qui de toute façon, eux, n'ont connu que la croissance, n'ont pas connu de problème ni politique ni économique depuis les 20 ans, parce que la consommation est là depuis 20 ans, et tant que le Chili est un bon élève économique et que tout va bien, eh bien ils en ont marre. Ils ont envie de voir autre chose. Et c'est notamment ce qui les conduit, et en plus c'est une tendance lourde de ces premières années en Amérique du Sud, c'est-à-dire qu'on veut un peu plus d'État, on veut un peu plus de social, on veut un peu plus de tranquillité, de manière de vivre différente, simplement autrement qu'en se pressurant pour que l'économie du pays aille. Ce que je veux dire, c'est que le Chili, c'est pas le Japon, les Chiliens sont pas des Japonais, ils sont pas prêts à faire maintenant de nouveaux trop de concessions sur l'économie. Et je pense que ça, c'est un point, en tant que journaliste marquant, que j'ai vu dans mes reportages, c'est que si la droite avec Piñera ou le centre-gauche avec Frey sont tous d'accord pour dire il faut que l'économie continue à progresser, la jeunesse et un certain nombre de... Et les gens qui soutiennent le Minami, notamment, disent « Oui, mais on veut vivre mieux, on veut mettre le débat de société au milieu du débat public, on veut parler de notre vie quotidienne, on veut parler de l'homosexualité, on veut parler de l'avortement, on veut parler de tout un tas de choses. » C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de problèmes de société qui sont pris en charge maintenant par le candidat Enrique Minami et qui sont totalement pas pris en charge par les deux autres candidats. Et ça, c'est fondamental dans ce qui va se passer dans la prochaine élection. Ça explique également pourquoi un certain nombre de partisans de Piñera vont voter à Minami au premier tour et se reporter sur Piñera au deuxième tour. Parce qu'ils pensent que Piñera va pas assez loin. Et Minami est rigolo là-dedans, parce qu'il force les autres candidats dans les débats publics à se prononcer sur des sujets de société. Donc l'économie, c'est important. Ça a permis à Bachelet de redorer son blason. Et je pense que c'est surtout le fait aussi qu'elle soit une femme, parce que c'est hyper important en Amérique du Sud qu'une femme ait été élue présidente d'un pays comme le Chili, qu'elle a un passé également de par sa famille de victime de la dictature. Ça aussi, ça a aidé à ce qu'elle continue, à ce qu'elle finisse avec un fort taux. Mais il ne faut pas omettre le côté volonté de la société chilienne d'aller au-delà du clivage pour ou contre Pinochet. C'est-à-dire que, grosso modo, pour l'instant, les candidats, que ce soit Fry ou Piñera, moins d'ailleurs, parce que Piñera, il faut se souvenir qu'il avait demandé à voter non au référendum de 88 pour le maintien au Pinochet de voir. Et ça, ça lui est reconnu dans la société chilienne. Ça ne l'a pas empêché de faire de grosses affaires pour la dictature. Mais en tous les cas, il s'est prononcé contre le maintien de Pinochet au pouvoir. Je trouve qu'actuellement, la vie politique chilienne, 20 ans après, tourne toujours trop au niveau du débat pour ou contre Pinochet. Pinochet, il est mort. Pinochet, c'est fini. Ça fait 20 ans de la concertation. Et justement, un candidat comme Enriquez est en train d'essayer de sortir du carcan de la politique chilienne qui est on est de gauche parce qu'on est contre Pinochet et on est de droite parce qu'on est pour. Je crois que les deux candidats en face à face, Piñera et Minami, pour ça, tentent de sortir du carcan. Fry, malheureusement, n'a pas réussi à rentrer dans cette logique et continue à faire une campagne qui est une campagne passéiste.
S'il te plaît, Georges.
Deux ou trois observations. Je partage 90% de ce que vous venez de dire, mais il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord, et puis je voudrais souligner une ou deux autres choses. D'abord, je crois que c'est profondément erroné. C'est reprendre le discours ambiant, en particulier dans les instances internationales, que dire que le miracle chilien, c'est la politique économique de Pinochet. Absolument pas. Pinochet s'était entouré de Chicago Boys, qui ont amené le pays en 1982 à une crise économique absolument dramatique.
D'accord, on parle de 83 et après 83.
Et oui, mais alors, c'est pas du tout les mêmes équipes, et celles qui ont vraiment... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a eu le changement de modèle économique, et c'est en ce sens où ils n'ont pas remis en cause l'ouverture des frontières. Mais toute l'Amérique latine y est passée un peu plus tard. Mais dès le début de la concertation, et c'est un travail de la concertation, il y a eu des instruments de régulation étatique de l'économie qui ont été mis en place, qui sont considérables. Moi, j'insiste là-dessus parce que c'est un deuxième point. Le Chili, aujourd'hui, c'est le premier pays d'Amérique latine en termes de pouvoir d'achat par habitant. Quand j'y suis allé en 2001, il était au quatrième rang. Aujourd'hui, le chiffre de la CEPAL, il a dépassé l'Argentine, le Mexique, etc. Il est le numéro un. Deuxième point, c'est le seul pays, c'est les chiffres de la CEPAL, où la pauvreté a diminué de manière considérable et où les objectifs du millénaire de diminuer de moitié la pauvreté sont déjà atteints, mais ce qui n'est pas touché, et c'est ça le vrai problème, c'est l'inégalité. L'inégalité demeure dramatique comme dans tous les pays d'Amérique latine. Le deuxième point, et là je suis entièrement d'accord avec vous, c'est les jeunes, l'économie, c'est pas leur tasse de thé, et c'est bien normal. Et ce sur quoi ils insistent, c'est sur les problèmes de société. Et là-dessus, Marcos Enriquez est complètement en phase, mais je voudrais rajouter une chose. J'ai beaucoup voyagé professionnellement et j'ai vécu dans beaucoup d'endroits. Je ne connais pas une société aussi hypocrite que la société chilienne. Dans laquelle, par exemple, jusqu'en 2005, le divorce était interdit. Mais ça n'empêchait pas ceux qui avaient de l'argent de se faire annuler leur, parce que ça coûte très cher, leur mariage par un tribunal ecclésiastique, en déclarant, c'était une cause de nullité du mariage, qu'ils avaient fait une fausse déclaration sur le lieu où ils devaient vivre au moment où ils se sont mariés, et qui pouvait donc voir annuler le mariage? Ceux qui avaient de l'argent. Alors on a quelque chose qui est tout à fait étonnant, qui est une société qui, sur le terrain économique, est très libérale, probablement la plus libérale d'Amérique latine, et sur le terrain social, l'une des plus conservatrices que je connaisse en Amérique latine. Mais qui fait tout cela? C'est la presse, qui est aux mains d'un certain nombre de puissants, on ne peut plus conservateurs, etc. Est-ce que ça va changer si Piñera est élu? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais en revanche, c'est vrai que Marco Enriquez fait complètement bouger les lignes sur ce terrain-là.
Je vais m'adresser à notre ami Ricardo Parvec. Ricardo, on a vu des manifestations d'inquiétude de certains secteurs qui soutiennent le candidat Piñera, parce que par rapport au thème dont on parlait à l'instant, on a vu aussi bien dans les messages télévisés électoraux de tous les partis, y compris du candidat de droite, des couples homosexuels, dans certains des couples homosexuels qui s'embrassaient, etc. Et apparemment, c'est devenu un sujet de campagne. Est-ce que c'est vraiment un sujet important? Est-ce que cela, effectivement, provoque des problèmes à droite? Parce qu'il faut savoir, donc, que la candidature de la droite, c'est un candidat qui, lui, est un libéral, mais qui est soutenu par une partie de la droite qui, elle, est plus catholique et plus conservatrice.
Je pense que c'est un problème qui est derrière nous. Lorsque je suis arrivé au Chili il y a une dizaine de jours, ce thème, le thème de l'irruption, disons, de ces discours sociétals d'ouverture vers les homosexuels et les lesbiennes avait alimenté et alimenté encore il y a 10 jours une discussion et beaucoup de rumeurs, beaucoup de commentaires. Et 10 jours plus tard, aujourd'hui, ça, je dirais, on a dépassé cette discussion. La curiosité et la nouveauté de ces sujets est dépassée. Ceci dit, cela pose un vrai problème fondamentalement, je dirais d'abord à la droite, parce que, comme Eduardo le disait, la droite est composée d'une part d'un parti plutôt libéral, néolibéral, je dirais même, qui est Rénovation Nationale, qui a une certaine ouverture vis-à-vis de ce type de problèmes, et Piñera est membre de ce parti. Et d'autre part, il y a la UDI, qui est vraiment le pinochetisme pur jus, avec une influence très importante de l'Opus Dei et des Légionnaires du Christ. Et donc, effectivement, à ce niveau-là, il y a eu des situations pas très aisées, mais je pense qu'ils ont réussi à ne pas faire de cela un sujet de dissension et de division au sein du bloc de la droite, de l'Alliance. D'autres choses peuvent créer des dissensions au niveau de la droite, et ce sont les candidatures parlementaires, parce que là, toute l'union qu'ils ont voulu et qu'ils ont réussi en partie à présenter et à faire avec sous la candidature de Piñera, s'effrite ou s'est brise au niveau des candidatures séparées entre UDI et Rénovation Nationale dans toutes les circonscriptions. Le phénomène donc le phénomène de l'homosexualité et toute cette réflexion moderne vis-à-vis des problèmes sociétaux n'a pas créé un véritable problème. Ça a été plutôt un mini-scandale bien orchestré par les médias, parce que c'est un sujet, disons, dont les gens sont friands. Voilà, et ça fait partie, le fait d'être friand de ce type de choses, ça fait partie de ce que Georges Coffignal disait en tant qu'aspect hypocrite et aspect un peu pacato, comme on dirait en espagnol, de la société chilienne. Et j'ajouterai une seule chose, je dirais que le sujet de l'homosexualité et de son irruption dans la campagne n'est pas sans laisser des séquelles ou des conséquences, mais ça ne passe pas non plus comme une lettre à la poste au niveau de la concertation. Il ne faut pas oublier que la concertation, un des composants de la concertation, c'est la démocratie chrétienne qui a des liens très très étroit, aujourd'hui moins que par le passé, mais qui a des liens idéologiques avec l'Église catholique. Or, c'est l'Église catholique chilienne qui s'est opposée au divorce, c'est l'Église catholique chilienne qui a créé toute cette mentalité un peu hypocrite dont on parlait tout à l'heure. Et pour la démocratie chrétienne et pour les secteurs le plus, je dirais, traditionnel de ce parti, sans doute que le traitement actuel de ces sujets sociétaux n'est pas aisé, n'est pas une chose facile. Mais, par contre, ils ont été très disciplinés. Il n'y a pas eu particulièrement des vagues à ce niveau-là, pas autant qu'il ne l'a eu à droite.
Bien que les élections de ce dimanche pourraient constituer un véritable tournant si un homme de droite s'installait à la place d'une femme de gauche à la tête du Chili, quelques jours avant les élections, les Chiliens ne semblaient pas vraiment passionnés par le scrutin de ce dimanche. En arrivant à Santiago, Ricardo Barbex a cru même percevoir une certaine apathie.
Je pense que c'est tout à fait le mot, je dirais, une certaine indifférence, voire une apathie. Et apparemment, la raison serait le côté peu éclatant, le côté peu charismatique des candidats. Si on analyse la personnalité de chacun des candidats, aucun ne présente les caractéristiques d'un grand leader qui puisse entraîner l'enthousiasme des masses. D'une part, Piñera, c'est un homme qui s'est imposé par l'appareil économique qu'il domine. Eduardo Frei, il a beaucoup gagné par rapport à Eduardo Frei numéro 1. Il s'est décoincé, on pourrait dire. Il a un côté beaucoup plus ouvert, plus souriant. Il a dû apprendre la leçon. Cependant, on ne peut pas forcer la nature des gens. Et il continue à être un piètre orateur. Il continue à être quelqu'un qui a des difficultés dans l'expression et pour faire passer des sentiments, disons, pour faire passer une certaine image qui serait nécessaire aujourd'hui. Arrate, c'est un homme qui a plutôt la tête d'un homme d'État, d'un homme de gouvernement, ce qui a été d'ailleurs le cas. Il n'est pas non plus, c'est un homme qui a 71 ans, donc qui n'enthousiasme certainement pas beaucoup les jeunes dépolitisés. Et puis ensuite, il y a le seul qui sort de ce moule, et ça pourrait expliquer son irruption dans le cadre politique, c'est Enrique Sominami. Cela ne préjuge pas du contenu de ses propositions, de son programme. Je veux dire, il sort du moule parce que c'est un jeune qui a 36 ans, c'est quelqu'un qui a peu de liens avec l'ancienne politique traditionnelle chilienne. Et c'est quelqu'un qui, même avant d'être député, n'était pas au Parti Socialiste. Il est rentré au Parti Socialiste au moment où il a présenté sa candidature, il y a 4 ans. Donc les gens ne le voient pas comme un homme d'appareil, ils le voient plutôt comme un rénovateur, un moderne. Voilà, il rompt un peu le schéma apathique dont on parlait. Mais sinon, quand on parcourt la ville, quand on va dans d'autres villes, grandes villes chiliennes, on se rend compte qu'il n'y a pas d'effervescence, qu'il n'y a pas d'enthousiasme, qu'il n'y a pas cet esprit et cette ambiance qui a marqué d'autres élections. Je ne sais pas si ce sera de même au deuxième tour, où il y aura des enjeux bien plus marqués et définis. Mais au premier tour, on n'a pas l'impression que dans 10 jours, il y aura des élections générales.
Marco Enrique Sominami, c'est un gars qui domine parfaitement l'audiovisuel. Il est réalisateur, il est producteur et il est très très fort dans tout ce qui est télévision. Il a notamment des images qui sont parues il y a 2 semaines au Chili où il est assis sur une chaise, quelqu'un s'approche de lui et il prend une claque. Et en sous-titre, il y a marqué...
Qui prend une claque, lui?
Oui, lui prend une claque. Et il fait comme ça. Et en dessous, il y a marqué... Marco est un être sensible. Deuxième version, il est assis, quelqu'un arrive par lui, veut lui mettre une claque, il arrête le coup. Et en dessous lui, en incrustation, il y a marqué Marco apprend. Donc il a un style de campagne qui est totalement différent à celle qu'on a vue là de gens qui dansent dans la rue, qui est la même pour Frei et même pour les autres. Il a réussi à saisir l'intérêt du public avec des images différentes que les autres candidats, qui attirent bien évidemment toute une frange de la jeunesse chilienne, parce qu'en se promenant dans les rues de Santiago, notamment du côté des universités, pratiquement tous les jeunes soutiennent Marco Enríquez Ominami. En tous les cas, dans le discours qui tient, on verra dans les urnes ce que ça donne. Mais en tous les cas, il est en train de créer un mouvement autour de son personnage extrêmement médiatique, extrêmement télévisuel. Il a une manière de parler qui passe très très bien dans tous les débats. C'est le meilleur, il n'y a pas de problème, il est vraiment bon. Alors peut-être qu'il est très... je ne parle pas des arguments, je parle de la manière dont il parle. Ça passe très très bien. Et ça, c'est quelque chose qui actuellement fait tilt, notamment chez les plus jeunes générations.
Française.
Latina.
La franco-latina.